L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il est aussi enseignant universitaire en droit constitutionnel. Avec lui, nous allons analyser les récentes déclarations d'Emmanuel Macron concernant la possibilité d'envoi de troupes en Ukraine sur fond d'une probable réélection de Donald Trump. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Lundi 26 février, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine qui a réuni 27 chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants ministériels principalement européens à l'Élysée, Emmanuel Macron a réaffirmé que la défaite de la Russie était indispensable pour garantir la sécurité des Européens. Il a souligné qu'un envoi de forces terrestres occidentales en Ukraine ne devait pas être à exclure. Selon le chef de l'État français, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, non seulement pour permettre à l'Ukraine de continuer d'exister, mais aussi pour assurer la sécurité collective en Europe. Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu'il fallait aller plus vite sur l'économie de guerre, à commencer par les munitions, les systèmes de défense sol-air et les missiles à moyenne et longue portée. Les dirigeants se sont mis d'accord autour de 5 catégories d'actions sur lesquelles il y a un consensus pour prendre de nouvelles initiatives. Parmi elles, les plus importantes, la coproduction d'armement en Ukraine, la défense de pays menacés directement par l'offensive russe en Ukraine, en particulier la Moldavie, et la capacité de soutenir l'Ukraine à sa frontière avec la Biélorussie, avec des forces non militaires. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré que les propos de Macron sur un possible envoi de troupes en Ukraine font le déshonneur de la France, et de rappeler que les alliés de la France n'ont pas compris et n'ont pas soutenu cette déclaration du président français qui a provoqué un choc parmi ses camarades et partenaires de l'OTAN. Alors que les signes de la victoire russe en Ukraine fusent et ne souffrent aucune démonstration, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur ce qui aurait pu motiver cette déclaration gravissime du président français. On serait tenté de penser que ceci est lié à la probable réélection de Donald Trump et à l'arrêt éventuel des financements et livraisons de matériel militaire à Kiev et même à l'OTAN de la part de Washington. Cela pourrait pousser les pays européens membres de l'Alliance Atlantique, dont principalement la France et l'Allemagne, à vouloir renforcer leur soutien à Kiev pour pallier à une éventuelle défaillance américaine. L'enjeu serait de favoriser une autonomie stratégique européenne, dont Macron est le chantre depuis des mois, contre l'ennemi supposé russe. Néanmoins, l'envoi de troupes au sol est loin d'être acquis. Ainsi, cette stratégie européenne ne fait-elle pas au fond le jeu des Américains en renforçant la soumission de l'Europe à l'OTAN et à l'oncle Sam? L'Europe a-t-elle les moyens de sa politique? Alors, pour répondre à ces questions et approfondir ce sujet, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il est aussi enseignant universitaire en droit constitutionnel. Philippe Deveul, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour Kamal Ouad, merci de me recevoir sur votre plateau de Spoutnik à Moscou. Et je me ferai un plaisir de répondre à votre question et je tenais à vous remercier pour l'introduction que vous venez de faire.
Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, Philippe Deveul, plusieurs membres de l'Alliance Atlantique ont également réagi aux propos d'Emmanuel Macron. hein, comme le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a affirmé qu'aucun État européen ou membre de l'OTAN n'enverrait de troupes en Ukraine. Alors, même son de cloche du côté de Londres, Rome ou encore Madrid. Et de son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'alliance militaire n'avait pas l'intention d'envoyer de troupes de combat en Ukraine. Mais, même à Washington, alors on a John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, s'est voulu catégorique, il n'y aura pas de troupes américaines sur le territoire ukrainien. Alors, qu'en pensez-vous? Macron, à qui a-t-il parlé en évoquant cette possibilité?
Alors, moi, je pense qu'il n'a pas les mêmes voix que Jeanne d'Arc, qui pourrait lui parler ou évoquer de sauver une Europe ou de sauver un système ou un modèle. Non, je pense que ces déclarations sont un coup de tonnerre dans le ciel, puisqu'en effet, déjà, un premier sondage en France démontre que 76% des Français sont contre cette idée d'une intervention des troupes occidentales au sol, ce qui impliquerait des troupes de l'OTAN et qui impliquerait évidemment des troupes françaises. Et on se rend bien compte que les autres dirigeants de l'Union européenne s'y opposent, parce qu'il y a quand même une forme de lucidité. Lucidité aussi de la part des Américains, qui ont compris que cette guerre était perdue, et qu'il fallait savoir rebrousser chemin, quand bien même le président le président américain Biden, qui a des marques de ses naissances assez répétitives, on voit bien que le Congrès ne souhaite pas voter les 60 milliards d'aides demandées financières à l'Ukraine, et qu'il y a un recul sur l'engagement militaire et le soutien en matériel vis-à-vis de l'Ukraine et de l'armée ukrainienne. Cependant, on a vu que le 16 février, le président Emmanuel Macron a reçu le président Zelensky en grande pompe à l'Élysée. Et qu'à la suite de cette rencontre, ils ont scellé un accord de coopération militaire, d'entraide militaire, qui est en fin de compte ne lie que les deux hommes. Je parle du côté français.
Oui.
Où est le débat au Parlement? Où est la demande au peuple français de savoir ce qu'il en pense par voie référendaire? Et on s'aperçoit évidemment que des gens de la politique française qui ont eu un rôle important à jouer dans différentes présidences, comme M. Hubert Védrine ou M. Jean-Pierre Chevènement, s'opposent à cette idée. Ce sont des gens d'expérience. Et on est étonné qu'un homme comme le président Macron, qui n'a jamais connu la guerre, qui n'a jamais fait de formation militaire, qui n'a pas fait son service militaire, qui n'est pas au fait de la chose militaire. Les seules balles qu'il ait entendu siffler dans sa vie, je pense, ce sont les balles de tennis de Roland Garros. Décide tout d'un coup, in petto, d'envoyer des troupes au sol, alors que c'est un front qui fait 1400 kilomètres de long, c'est-à-dire deux fois plus de ce que c'était le front pendant la Première Guerre mondiale, qui nous a coûté 1 200 000 hommes, qu'on a gagné au final. Je pense qu'il y a un manque de raison et un manque d'analyse concrète de la situation, et qu'on est encore dans les faits d'annonce. Mais attention.
Dans la communication.
On est dans la communication. Mais attention, cette communication est toxique. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça projette la France comme une nation belligérante face à la Russie, qui ne nous a rien fait. La Russie n'a jamais attaqué nos intérêts vitaux. L'Ukraine n'est pas notre frontière. Le Donbass n'est pas une zone vitale pour la France, c'est simplement une zone territoriale qui était connue par rapport au traité de Minsk 1 et aux accords de Minsk 2 qui n'ont jamais été respectés, qui ont en fin de compte été établis pour faire gagner du temps à l'Ukraine pour s'armer et préparer, si vous voulez, une sorte de conflit pour affaiblir la Russie et préparer, si vous voulez, la venue de l'OTAN. Ce que ne supporteraient pas les États-Unis si, par exemple, une alliance militaire de pays qui seraient des pays autres que dans l'intérêt des États-Unis commence à s'installer au Mexique ou au Canada.
D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on aille un peu dans le fond des choses, parce que, ben, comme vous l'avez dit, c'est surtout un effet d'annonce et de communication. On sait que non seulement la France, mais tout l'OTAN n'a pas ni les moyens matériels, ni les moyens humains pour aller faire la guerre.
Si on parlait en valeur absolue de manière stratégique et militaire, pour préparer une contre-offensive qui pourrait éventuellement faire bouger les lignes sur les six lignes de résistance ou les six lignes de défense russes sur le front du Donbass, il faudrait mobiliser au moins minimum 2 millions d'hommes. Ouais. Est-ce que l'Europe, l'Union européenne, a cette capacité de mobiliser autant d'hommes?
D'autant plus que l'armée ukrainienne est justement la plus grande armée d'Europe.
Bien sûr, bien sûr. Alors évidemment, il y aurait peut-être des troupes chez les Turcs, parce que les Turcs font partie de l'OTAN. Donc est-ce que le président Erdogan serait prêt alors que le président Erdogan n'applique pas toutes les sanctions contre la Russie? On sait très bien, ouais. On sait très bien que la Turquie soutient d'une manière assez concrète, mais sans profondeur, l'Ukraine, en envoyant des drones et en disant il faut retourner aux frontières avant l'opération spéciale. Mais vous voyez très bien que la Turquie a un voisinage avec la Russie et que son intérêt n'est pas de rentrer en guerre avec la Russie.
Mmh. D'accord. Alors, il est de notoriété publique que les gouvernements européens acquis à cette stratégie, donc de participation à cet endiguement et encerclement de la Russie, sont largement sous influence de l'idéologie néoconservatrice et sous la pression du complexe militaro-industriel otanisé, essentiellement américain. Et on a les États européens membres de l'OTAN n'ont pas, et on le sait maintenant, les capacités militaires et industrielles pour le faire, c'est-à-dire pour soutenir un effort de guerre, équiper des hommes, envoyer des chars, envoyer des avions, et ainsi de suite. Pour le faire, et cela prolongerait inutilement donc le conflit que la Russie a déjà largement gagné. Le président ukrainien a déclaré que sur 1 million d'obus que l'Union européenne nous a promis, donc a promis à l'Ukraine, ce ne sont pas 50%, mais malheureusement, 300 000 qui ont été livrés. Voilà. Voilà les faits de la réalité. Donc, in fine, Philippe Deveul, cette stratégie ne favorisera-t-elle pas une relance du complexe militaro-industriel otanisé, faisant du complexe militaro-industriel français, donc américanisé, c'est ce que je veux dire, un complément ou une annexe du complexe militaro-industriel américain, qui sera toujours privilégié par les partenaires européens de la France, notamment l'Allemagne?
Alors, je pense qu'il faut peut-être simplifier la question en disant qui gagne, qui perd dans cette affaire. Mmh. Et bien évidemment, c'est le complexe industrio-militaire américain qui a vendu beaucoup d'armement à l'Ukraine, qui a reçu beaucoup d'argent, parce que l'argent qui a été envoyé est retourné aux États-Unis pour l'achat de matériel et qui a relancé, si vous voulez. Et ça fait partie un peu de l'économie américaine, qui se porte pas si mal en fin de compte tenu de cette guerre. Pourquoi? Ouais. Parce que évidemment les États-Unis vendent leur pétrole, vendent leur gaz de schiste, qui contourne les matières premières, le gaz et le pétrole russe qui est tombé sous le coup des sanctions. Donc les grands gagnants économiquement de cette guerre, ce sont les États-Unis. Les grands perdants, qui sont-ils? Alors évidemment, l'Ukraine a beaucoup perdu, surtout beaucoup perdu d'hommes et du territoire.
Oui. Ça c'est sûr. Mais s'il y a quelqu'un qui a
sûr,
perdu, c'est
voilà.
L'Ukraine.
Et je crois que c'est les propos du président Macron et cette forme de d'acharnement, comme il y aurait un acharnement thérapeutique sur quelqu'un qui est en fin de vie, il y a un acharnement militaire sur une bataille qui est perdue, la bataille du Donbass, la guerre du Donbass. Et sa positionnement va à l'encontre des intérêts de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit aujourd'hui que la Russie, qui tient le terrain, a des options militaires, des objectifs militaires qu'elle pourrait faire suivre de manière concrète sur le terrain. Par exemple, la prise d'Odessa, ou aller peut-être jusqu'à Kiev. Ça, c'est une possibilité. C'est une option militaire qui est tout à fait possible. Si justement l'Ukraine continue à faire croire qu'une contre-offensive est possible. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une annonce de contre-offensive, ça a été un échec. Mmh. Et maintenant, les contre-offensives, elles sont faites plutôt du côté russe, mais il n'y a pas d'annonce. Mais au moins, on a vu avec Advika que c'était des opérations militaires concrètes et des victoires. Donc, à mon avis, plus on essaie de gagner du temps sur une possible contre-attaque ukrainienne, et plus on fait perdre du temps à l'Ukraine, et plus l'Ukraine aura du mal à se sortir de cette situation en cas de négociation de cessez-le-feu et éventuellement d'un traité de paix.
D'accord. Alors, j'aimerais bien justement revenir sur un aspect qui est très important. Durant les mois et les semaines ayant précédé le début de l'opération spéciale militaire, les Occidentaux, mais notamment et essentiellement les Américains, n'ont cessé d'accuser la Russie de vouloir envahir l'Ukraine. C'est-à-dire injustement, parce que voilà, y a une envie de rétablir l'Empire russe, il y a une envie de rétablir l'URSS. Alors, il est de notoriété publique également qu'aujourd'hui la Russie n'avait amassé à la frontière avec l'Ukraine que des forces dont le nombre était compris entre 120 000 et 150 000 hommes. Et il n'y avait que 60 000 uniquement qui avaient participé à la première vague d'assaut. Donc, Philippe Deveul, avec ces effectifs, la Russie avait-elle vraiment l'intention d'envahir l'Ukraine ? Et même l'Europe, comme le disent les Européens actuellement, ils disent qu'il faut se préparer à la guerre à l'horizon 5 à 8 ans. L'Ukraine, un pays d'une surface de 603 000 km² et une population de 43 millions d'habitants, avec 120 000 hommes.
Dans votre question, vous avez la réponse. On ne peut pas envahir un pays d'une telle grandeur, qui est une fois et demie plus grand que la France, avec une armée conséquente, avec 150 000 ou 190 000 hommes. C'est impossible, c'est pas une armée d'invasion, c'est plutôt une armée d'opération militaire sur une région, mais pas sur tout le territoire ukrainien. Et il aurait fallu, pour envahir l'Ukraine, au moins 2 millions d'hommes, ce qui n'a pas été mobilisé par la Russie. Donc il faut revenir à la raison. Et évidemment, se retirer de l'esprit, de la doxa occidentale, qu'on est dans un scénario de Seconde Guerre mondiale où on compare la Russie à l'Allemagne, hein, qui a envahi la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc. Non, ça n'a rien à voir, parce qu'en fin de compte, on connaissait déjà le dossier du Donbass. L'Occident, l'Europe, l'Union européenne connaissaient les problèmes et les revendications à la fois des deux républiques autoproclamées, de Lugansk et du Donetsk, connaissaient les revendications du président Poutine. Ont bien vu que, bon, pour la Crimée, elle avait été récupérée sans coup férir. Hein. C'était simplement une récupération d'un territoire, alors qu'elle a été discutée, parce que, évidemment, on vous parle de souveraineté. Mais il faut savoir une chose, c'est que tous ces dirigeants de l'Union européenne sont des européistes mondialistes qui ne font pas beaucoup, qui ne portent pas beaucoup d'attention à la souveraineté de leur propre pays. On voit bien que l'Union européenne joue contre l'intérêt des pays membres de l'Union européenne en abaissant leurs frontières, puisqu'il n'y a plus de frontières avec les directives européennes et notamment le Schengen qui ouvre les frontières de l'Europe à une immigration massive qui effraie une grande partie des populations des pays membres de l'Union européenne comme l'Italie, comme la France ou comme l'Espagne. Mmh. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il n'y a pas de frontières pour l'Union européenne, mais il y a tout d'un coup, des frontières pour l'Ukraine. Ouais. Donc, il y a une contradiction sur la doctrine, il y a une contradiction sur la philosophie, comme les valeurs, d'ailleurs. Et j'ai entendu le président Macron qui a dit, on va défendre nos valeurs. Alors, de quelles valeurs parle-t-il ? Parce que la France, elle est attachée à une certaine idée, à la notion du droit. Mais il faut savoir qu'en France, les droits fondamentaux ne sont plus respectés. Le premier droit, à mon avis, pour un citoyen, c'est la sécurité. En France, il n'y a pas de sécurité. Vous avez 150 attaques à coups de couteau tous les jours en France. Vous avez des gens qui meurent chez eux de balles perdues de Kalachnikov, des bandes de narcotrafiquants qui font la loi dans des zones de non-droit. Et il y en a plus de 1700 en France. Et vous avez un président Macron qui, lui, veut envoyer des troupes pour faire la guerre à la Russie en Ukraine. Donc, il y a une contradiction entre la réalité du pays et la réalité géopolitique.
Et puis, on peut aussi rajouter, et j'aimerais bien avoir votre avis, le fait que l'Ukraine est quand même l'un des pays les plus corrompus de toute la planète.
Bien sûr.
Et que ce n'est un secret pour personne qu'il y a eu des mouvements néo-nazis qui se revendiquent de Stepan Bandera qui sont à l'intérieur de l'armée, qui dirigent l'armée.
Bien sûr, le bataillon Azov qui
alors, quelle valeur il va alors, défendre en Ukraine.
Oui, alors, évidemment, vous avez deux poids, deux mesures. C'est évidemment, comme on dit avec un anglicisme, la storytelling. C'est-à-dire que nous sommes les chevaliers blancs. Mais regardez vous-même ce que vous faites dans vos propres pays avant de donner de leçons aux autres. C'est la base, c'est le béaba. Et évidemment, tout ça nous fait poser énormément de questions à tous les souverainistes, à tous les patriotes français, qui se demandent, mais sur quel lien particulier il y a cette entente entre le président Zelensky et le président Macron, qui est étrange. Je veux dire, moi, je n'ai jamais vu, par exemple, le général de Gaulle ou Churchill se prendre dans les bras et se tenir par la main, alors qu'ils étaient alliés, qu'ils avaient un combat commun. Bon, beaucoup de questions sortent de ce rapport particulier entre ces deux présidents et le président Zelensky, qui avait été élu justement pour lutter contre la corruption et qui avait été élu pour la paix. Il faut rappeler tout ça. Oui. Et il a, en fin de compte, il n'a rempli aucun de ses objectifs, puisqu'il y a encore plus de corruption qu'avant, et on ne peut pas faire mieux pour faire une guerre de cet ordre-là ou laisser rentrer la guerre dans son pays. Donc il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de maquillage de la réalité de la situation. Et il est très difficile, justement, en Europe, en France, de faire surgir la vérité. Et vous voyez bien, il faut que je sois invité sur un plateau à Moscou, hein, pour pouvoir donner une autre vision de la situation et de la réalité. Et je viens de finir le congrès MIR sur la russophilie, dont je suis délégué, à titre d'observateur et à titre de citoyen français, parce que le gouvernement russe reconnaît évidemment mes capacités d'avocat international à résoudre des problèmes ou des situations assez difficiles, ou donner des analyses qui, jusqu'à présent, ont été justes. Et j'ai pu observer que parmi les 133 pays, réunissant tous les continents, réunissant les pays du nord au sud, de l'ouest à l'est, il y avait même des représentants, des invités britanniques, qui ont reçu l'autorisation du Foreign Affairs Ministry pour venir écouter et observer ce qui se disait et voir interviewer des personnalités politiques. Parce qu'on sent très bien qu'il y ait une erreur dès le départ, une erreur sur la personne du président Zelensky, de ce qu'il proposait, et sur la situation dans laquelle on est. Seul le président Macron fait une forme de, comment dire, une position obsessionnelle, en disant la Russie ne doit pas gagner.
Mais elle a déjà gagné.
Elle a gagné. J'avais justement des représentants africains qui me disaient, mais l'Ukraine, c'est fini, il faut passer à autre chose, c'est terminé. Voilà. Donc, je ne comprends pas cet entêtement. Ou alors souhaite-t-il faire rentrer la France dans un conflit pour masquer le déficit abyssal, colossal, qu'on ne pourra jamais payer. Le déficit du service hospitalier, l'échec de l'éducation, l'incapacité de répondre avec les forces de l'ordre aux problèmes de sécurité. Est-ce qu'il n'a pas envie qu'on passe à autre chose pour justement maquiller, masquer D'accord. tous les échecs dont il est à l'origine?
D'accord. Alors, une dernière question pour cette première partie. En cas de réduction drastique du soutien à Kiev, donc par Washington, après les élections américaines, dans l'optique de la possibilité d'une réélection de Donald Trump, et au pire, parce que Trump l'a dit plusieurs fois, c'est la diminution, voire le retrait carrément des États-Unis, de l'OTAN. Cela ne signifierait pas un abandon de la doctrine, malheureusement, géopolitique, de contrôle de l'Europe. Et en effet, sachant que l'État profond américain, parce qu'il a quand même son mot à dire, qui est lié au complexe militaro-industriel, à son mot à dire dans la politique extérieure du pays, et l'élection de Trump ne renversera pas hein, au moins dès le premier jour, la table, dès le premier jour après son arrivée à la Maison Blanche. Donc, ma question, dans ce cas de figure, une pression supplémentaire de la part de Washington pour que les Européens de l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils sont membres de l'OTAN, dépensent plus et achètent américains l'armement, n'est-elle pas envisageable dans ce cas? Et puis, son sursaut d'une doctrine d'indépendance géopolitique, le statut hégémonique de Washington en Europe, de l'Ouest, ne va-t-il pas, in fine, s'approfondir?
Alors, c'est une très bonne question qui sous-entend, évidemment, une question américaine propre. C'est-à-dire que, quelle est la situation des États-Unis aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, on a un président démocrate qui a un néocon, comme on dit, néoconservateur, très interventionniste, hein, parce qu'il faut savoir que le président Biden avait été à l'origine des bombardements de la Yougoslavie, de la Serbie. Hein. Il le disait au effort, « We have to bomb Belgrade, we have to bomb Serbia ». Donc c'est un habitué hein, des interventions militaires, sans, évidemment, absolument, sans l'autorisation, hein, sans l'aval du Conseil de sécurité, sans l'aval de l'ONU, donc c'est un récidiviste. On l'a vu aussi pour l'Irak. Donc c'est évidemment des politiciens qui sont interventionnistes, tout sous un masque de démocrates happy friendly, qui en fin de compte sont des guerriers à l'extérieur. Mais on s'aperçoit qu'en aux États-Unis, beaucoup de choses ne vont pas. Vous avez par exemple un État comme l'État du Texas, qui est aussi grand que la France, ou voire un peu plus grand, qui
très
a
riche,
des matières premières gigantesques, du pétrole, des céréales, etc., parle, évoque de ne plus suivre la ligne fédérale. On évoque même une sécession. Ouais. Est-ce que l'Amérique n'est pas au bord d'une implosion? Et l'on voit aussi les difficultés que rencontre un candidat qui a été président des États-Unis comme Donald Trump, avec tout ce terrain miné judiciairement où on essaie de lui trouver des histoires, où on le condamne à faire payer des amendes, etc., pour l'empêcher d'arriver comme candidat à l'élection présidentielle. On s'aperçoit vraiment qu'aux États-Unis, les choses ne vont pas si bien que ça, combien même c'est le pays qui a encore la plus grande armée du monde et qui dispose du plus grand soft power dans le monde, d'influence. Je crois qu'il y a une forme de lucidité et que les Américains s'aperçoivent qu'on est maintenant, on rentre maintenant dans un monde multipolaire. Et que pour lutter contre un monde multipolaire, on ne peut pas y arriver de manière militaire. Et je crois que l'intérêt, je crois que le président Trump en est très conscient et que son intérêt politique, c'est de s'occuper de l'Amérique, de lui redonner l'impulsion, les moyens de se réindustrialiser, de se restructurer et même moralement. Parce que tout ce vent progressiste américain qui est le wokisme, par exemple, et qui a atteint les élites, même en Europe, mais c'est pire que ce qu'on a connu pendant la guerre froide, où l'Occident était méfiant vis-à-vis de l'URSS et du soviétisme. Et là, je crois que là, tout ce courant intellectuel progressiste, gauchiste américain, qui pénètre les esprits en Europe, provoque une forme d'anti-américanisme par rapport aux gens qui sont des souverainistes et qui étaient pro-américains il y a 30 ou 40 ans de cela.
Ouais, ouais.
Donc on est dans un changement complet. Et on s'aperçoit que les standards qui sont imposés par l'Occident et notamment le président Macron, qui concernent des minorités, sont imposés à des pays, et ils ne veulent rien entendre. Là, par exemple, les Africains, il y avait eu un ambassadeur LGBT qui avait été envoyé en Afrique et qui a été gentiment reçu, mais qui a été éconduit. Et les Africains ont dit non, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce qu'il nous faut, c'est plutôt de la technologie, du savoir-faire, et non pas une sorte d'idéal, peu importe, hein, qui concerne des minorités, mais chacun fait ce qu'il veut, mais on n'a pas imposé tout ça.
Ouais.
Et c'est ce qu'on essaye de nous vendre comme valeur française. La France, elle a 2000 ans d'histoire. Elle est façonnée par toute une tradition, par tout un historique, par la monarchie plus que la République.
Mmh.
Et on aimerait, d'un trait de plume, balayer tout ça, effacer tout ça. C'est pas possible. Il y a des anticorps qui ne permettront pas. Et on aura beau faire tout ce que vous voulez, ça n'arrivera pas. Et tout ce qui est fait aujourd'hui... Alors, personnellement, on pourrait en rire... Mais ce qui est grave, c'est que les propos, les effets d'annonce du président Macron heurtent non pas que les Français, mais heurtent aussi la Russie.
Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Maître Philippe Deveul, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Maître Philippe Deveul, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il est également enseignant universitaire en droit constitutionnel. Je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Bien, alors allons maintenant aux questions géopolitiques parce qu'en réalité c'est ça qui fait bouger les choses, c'est les considérations géostratégiques à long terme. Alors promouvoir comme le fait Macron sous l'emprise américano-atlantiste une armée et une défense européenne dont la France, selon lui, on le voit parce que il serait le chef de file, mais sans élaborer. Le problème, c'est ça. C'est sans élaborer une vision et un projet géopolitique qui l'encadrerait de manière indépendante des visées géostratégiques des États-Unis, ne permettra pas, visiblement, de regagner une souveraineté géopolitique. Alors, sans refuser, justement, ma question, de s'aligner sur les objectifs géopolitiques et géostratégiques quant à la Chine, c'est-à-dire américains, quant à la Chine et la Russie, et tous les pays du BRICS qui dépendent de, ou qui défendent la multipolarité, augmenter le nombre des troupes et les dépenses de défense, peut-il vraiment changer quelque chose à la situation actuelle d'asservissement et de faiblesse de l'Europe? Et je rappelle que s'il y a un pays en Europe qui peut faire ça, c'est-à-dire renverser la table, c'est la France, à cause du fait que c'est la seule puissance nucléaire du continent.
Alors oui, c'est vrai que je ferai d'abord une petite référence historique. La seule personnalité politique de taille et d'importance qui a réussi à faire de l'Europe une unité politique et militaire, c'était Charlemagne. Et ça a duré 3 générations jusqu'à ce que ses petits-enfants, qui n'étaient pas à la hauteur de leur grand-père, se soient disputés et fait voler en éclats l'empire de Charlemagne. Charlemagne, qui était un visionnaire, qui était un empereur, et qui avait une épée qui faisait 1 mètre de long, et il avait des barons autour de lui qui étaient toujours à ses côtés pour, à la vitesse du cheval au galop, pour mater les rebelles ou pour mater les félons, pour solidifier son empire, et qu'il l'a fait évidemment sous un aspect religieux, c'est-à-dire qu'avec l'accord du pape de l'époque, justement pour donner une unité à la fois politique et spirituelle à son œuvre. C'est le seul qui ait réussi jusque-là l'unification de l'Europe. Donc, comparer les politiques actuelles à Charlemagne, je crois que ça tient du fantasme. Et que Emmanuel Macron aimerait évidemment jouer un rôle dans une Europe de défense militaire unifiée ou intégrée, qui s'appuierait sur ce qui a été fait avec l'OTAN, qui a elle-même en l'OTAN des contradictions, parce qu'on vous parle de l'OTAN, mais je l'ai cité auparavant, la Turquie.
Oui, absolument.
La Turquie, justement, qui s'oppose au F-35, qui serait les avions proposés par les Américains dans la politique de développement de l'armement proposée comme standard. Et la Turquie qui s'y oppose, parce qu'évidemment, il y a un problème avec le F-35, c'est qu'il pourrait être commandé depuis les États-Unis. On pourrait désactiver un F-35 depuis les États-Unis. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que ça ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même des problèmes de contestation territoriale en Méditerranée sur des îles qui appartiennent à la Grèce et qui sont revendiquées par la Turquie.
Par la Turquie, oui.
Et on a très bien vu qu'il y a eu quand même des affrontements jusque-là qui ne sont pas, qui n'ont pas abouti, mais des formes de combats aériens tournoyants sans tirer de feu, sans avoir utilisé le feu entre l'aviation grecque et l'aviation turque. Et qu'il y a aussi des mouvements de navires turcs autour de ces îles. On sent très bien qu'il y a une partie un peu sensible, fébrile dans la région. Et pourtant, ces deux pays appartiennent
à l'OTAN.
Donc il y a déjà des contradictions à l'intérieur de l'OTAN dirigées par les États-Unis. Alors imaginez-vous si c'était sous un commandement français. Alors, moi, je ne suis pas là pour dénigrer la France. J'aime beaucoup mon pays, j'adore mon pays et je connais ses difficultés. Alors, il est vrai que maintenant, la France est l'unique pays détenteur de l'arme nucléaire dans l'Union européenne. Avant, il y avait aussi la Grande-Bretagne,
oui.
Qui a un emploi de l'arme nucléaire en association avec les États-Unis, ce qui ne rend pas la chose facile. Mais la France, elle dispose de 300 têtes nucléaires qui sont soit des missiles embarqués sur les SNLE, les sous-marins nucléaires porteurs d'engins, ou soit par avion, hein, par des rafales nucléarisées, soit sur le porte-avions Charles de Gaulle, ou soit sur des bases aériennes. Donc 300 têtes nucléaires. Alors évidemment, c'est pas aussi considérable que la force nucléaire. Alors elle est équivalente à la force nucléaire anglaise, mais c'est pas du tout l'équivalent de la force de frappe nucléaire américaine ou bien la force de frappe nucléaire russe, qui dispose de 7500.
Mais elle est assez suffisante pour obliger n'importe quel...
Exactement. Alors, il faut...
À réfléchir. Fois avant
voilà. De... Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est la base de la dissuasion. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'attaquer un pays qui pourrait commettre ou détruire chez vous des villes et qui ferait qu'en fin de compte, il n'y aurait ni gagnant ni perdant. Mais ce serait un désastre. C'est un peu la politique du pire en matière stratégique. Et ce que je peux reprocher au président Macron avec ses déclarations, c'est qu'en 2000 ans d'histoire, jamais la France ne s'est mise dans un tel piège. Parce que si jamais on mettait des troupes au sol, on deviendrait co-belligérant de facto vis-à-vis de la Russie, et dans ces cas-là, cela pourrait entraîner un engrenage d'un conflit nucléarisé. C'est une Absolument. Évidence. Et d'ailleurs, le président Poutine l'a très bien dit il y a deux ans, quand le président Macron est venu, si la France voulait la guerre avec la Russie, il n'y aurait pas de gagnant. Voilà, dont acte. On sait ce que ça veut dire. Donc, il y a une part d'inconscience de la part du président Macron. Parce qu'en fin de compte, cette dissuasion française, elle ne sert que si un pays s'attaque aux intérêts vitaux de la France. Et comme je vous l'ai dit dans la première partie, l'Ukraine ne fait pas partie des intérêts vitaux de la France. Il y avait une doctrine militaire qui avait été développée justement par Nicolas Sarkozy en 2007-2008. Il avait très bien dit, c'est que sur nos sous-marins nucléaires, dont toujours un est en mouvement dans les eaux, il y a 16 missiles. Et il avait expliqué qu'on n'était pas obligé d'utiliser les 16 missiles. On pouvait utiliser un missile, voire deux missiles, en cas où la France aurait été attaquée par un État tiers et qui aurait touché ses intérêts vitaux. Et il pensait, et par exemple... Alors, quand on dit on utilise un ou deux ou trois missiles, c'est pas forcément contre un autre État nucléarisé qui détient l'arme nucléaire. C'est-à-dire, on aurait par exemple eu un attentat qui aurait par exemple décimé une ville par une bombe sale ou par un attentat terrible, et on aurait trouvé un État responsable d'un tel acte terroriste, par exemple, la France se serait gardé le droit de riposter. C'est ce qui fait partie de la dissuasion. C'est-à-dire qu'un État qui aurait des velléités contre la France réfléchirait à deux fois avant de faire quelque chose de cet ordre-là. Mais là, quand on veut rentrer en conflit avec un pays qui a une arme nucléaire, ça demande beaucoup de réflexion et de prudence. Et c'est ce que je reproche au président français qui, justement, lors d'un de ses déplacements en Suède, je crois, avait dit qu'il était prêt à partager l'arme des dissuasions Absolument. Avec d'autres pays de l'Union européenne. C'est une idée à laquelle je m'oppose formellement. Absolument. Parce que Moi, j'ai gardé l'enseignement du général de Gaulle sur une France indépendante qui était sortie de l'OTAN et qui pouvait jouer un rôle diplomatique ou un rôle d'arbitre que nous n'avons plus aujourd'hui parce que nous sommes vassalisés.
Puissance d'équilibre.
Et je vous dis, il n'y a que des contradictions dans ces annonces. Pourquoi ? Parce qu'on dépend déjà des États-Unis. Nous sommes retournés à l'OTAN dans le commandement intégré sous la présidence du président Sarkozy, qui se disait gaulliste d'ailleurs. Et avec une continuité d'Emmanuel Macron qui, à mon avis, montre les limites de l'esprit européiste et mondialiste. C'est-à-dire que s'il y a une sorte de retour à la raison en France, j'espère et je souhaite que l'on retrouve une gouvernance souverainiste. Et indépendante. Parce que je crois que avec l'Union européenne, on est allé beaucoup trop loin. Justement, dans l'ouverture des marchés. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec les agriculteurs en France. Cette contestation agricole qui est légitime.
Absolument.
Vous avez un paysan qui se suicide tous les deux jours. Vous avez une exploitation agricole qui ferme toutes les semaines. Vous avez la même situation en Allemagne, la même situation de contestation agricole en Belgique, en Italie, en Pologne et bien d'autres. Donc on voit bien que le système, le standard de l'Union européenne ne fonctionne pas parce que c'est un système mondialiste qui se préoccupe plus du développement des autres pays qui n'ont rien à voir avec vous, avec votre intérêt, par des voies d'organisation internationale comme l'Organisation mondiale du commerce. Ça n'a plus de sens. Et même médical avec l'OMS qui vous impose des standards qui n'ont aucune utilité en cas d'une nouvelle pandémie ou d'une maladie grave.
Et d'autant plus qu'elles deviennent des organisations à la merci des grands oligarques.
Des oligarques ou des grandes sociétés. Ouais. Donc tout ça, c'est obsolète. Ça a été un idéal pendant 50 ans. Si vous voulez, il y a une soif, justement, d'ouverture du monde, etc., après la Seconde Guerre mondiale, avec l'agrandissement de l'ONU et du droit international. Mais aujourd'hui, en fin de compte, l'ONU est victime, si vous voulez, de ces anciennes hégémonies.
D'accord.
Et on s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement entre la réalité du terrain, la réalité de la géopolitique et ce qu'on pourrait imposer dans les standards du droit international.
D'accord. Alors, pour ralentir la dynamique de la multipolarité, parce que moi, il me semble, j'aimerais justement avoir votre avis sur ça, que c'est ça qui est la trame de toute cette histoire-là qu'on voit un peu partout, et les États-Unis peuvent de moins en moins, en réalité, ils sont convaincus que la marche vers la multipolarité est inarrêtable, donc ils jouent sur comment la retarder, comment le temps qu'il se refasse un peu une santé. Donc, les États-Unis voient qu'ils ne peuvent pas manœuvrer sur plusieurs fronts, contre la Russie, contre la Chine et l'Iran, au Moyen-Orient, sans alliés directement alignés sur leurs priorités. Maintenant, la question, Philippe Devol. Et là, je fais appel à vos connaissances de diplomate. Les États-Unis ne sont-ils pas en train de maintenir l'Europe sous protectorat de l'OTAN contre la Russie, tout en maintenant le rôle de chef de file afin de pouvoir se concentrer sur la Chine? Et dans ce cas-là, ils l'ont évoqué déjà, une question de l'OTAN, même dans l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, le Japon a refusé lors du dernier sommet de l'OTAN qu'un bureau soit ouvert au Japon. Est-ce qu'il n'y a pas risque, justement, de voir, en plus de l'Ukraine, les Européens entraînés dans une autre guerre contre la Chine?
Mais évidemment, il faut revenir aux fondamentaux. Napoléon disait il faut diviser pour mieux régner. Et ça reste toujours un mode d'emploi assez efficace et qui marche. Vous voyez l'Europe. L'Europe qui s'affronte sur l'Ukraine avec la Russie. Pourquoi ? La grande crainte de l'Amérique, c'est une forme de ligne entre l'Europe et la Russie, qui va de Brest jusqu'à Vladivostok, comme disait le général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Et ça, c'est une grande crainte des États-Unis, évidemment. Mais c'est une réalité géopolitique. On est sur le même continent. Nous avons des liens. Quand je visite les musées, que ce soit à Saint-Pétersbourg ou à Kiev, on voit très bien que l'empreinte de l'ADN de la Russie, c'est aussi l'Europe.
Absolument. Donc, il suffit seulement de visiter la ville, mais pas aller dans les musées.
Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a des liens, même au niveau littéraire, artistique. Les points communs entre les grands auteurs, les Tolstoï, les Victor Hugo, les Pasternak, les Balzac, on sent qu'il y a une richesse intellectuelle, littéraire qui est commune. Il y a, si vous voulez, beaucoup d'affection entre le peuple russe et le peuple français. Je connais beaucoup de Français qui adorent la Russie. Et inversement, hier, j'ai fait une interview avec une journaliste et elle me disait, je lui expliquais un peu quels étaient les liens avec la Russie. Et elle me disait, mais nous, on aime la France. Donc on est pris en otage par une élite qui est complètement dépassée, qui a une vision dogmatique de ce qui se passe en Russie, en donnant des leçons. Je pense que la France devrait regarder ce qui se passe dans son pays avant d'accuser et de partir sur des grands chevaux de chevaliers blancs en disant « mais regardez les dictatures horribles que représente le régime de Poutine ». C'est un non-sens. Et le problème, c'est que le public est très friand de ce genre d'histoire et que ça peut générer justement une forme de propagande qui est érodée. Je dis pas ça parce que je serais particulièrement adoubé au pouvoir russe, mais j'ai un respect de la Russie et de son pouvoir. Parce que moi, j'ai vu depuis 20 ans ce qu'a fait le président Poutine pour redresser la Russie, pour la sortir du désastre dans le politique dans lequel elle était. Et je m'aperçois ici, en me promenant à Moscou ou bien à Saint-Pétersbourg, alors j'ai pas fait toutes les villes de Russie, que les gens sont tout à fait paisibles, qu'il n'y a pas d'insécurité comme nous, on en a en France, à Paris ou dans les grandes villes, ou même des villes de province comme Nantes. On voit qu'il y a une forme de vie sociale très agréable, que les magasins sont bien achalandés et que je n'ai pas l'impression que toutes les boutiques que j'ai rencontrées c'était des modèles Potemkin pour justement dire regardez ça se passe bien ici. Alors c'est sûr qu'il y a des difficultés comme dans tous les pays, mais l'excellent travail qui a été fait ici en Russie, le président Poutine est admiré par les trois quarts des pays. D'ailleurs, j'ai un ami diplomate qui m'a dit, y a un prince saoudien qui me dit, mais comment se fait-il, comment la Russie a pu retrouver cette résurrection en 20 ans? Mon ami diplomate a dit, mais le président Poutine est marié avec la Russie, il travaille de 8 heures jusqu'à minuit pour la Russie. Quand il y a du travail, il y a des résultats.
Bien sûr.
Voilà.
Évidemment. Bien. Alors, si maintenant, j'enchaîne sur ce que j'ai déjà dit sur les questions géopolitiques à long terme dans la deuxième question. Alors, dans ce cas de figure, les États-Unis pourraient bien mettre la pression s'ils font de l'Europe donc un front pour contrer justement la marche vers la multipolarité, ils pourraient bien mettre la pression sur les Européens, en fait qu'ils s'alignent sur leurs objectifs de contrer la Chine au moyen d'une OTAN globale, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la nécessité d'une menace russe, hein, et qu'ils ont attisé pour maintenir le contrôle sur les Européens. Alors, comment expliquez-vous justement cette fuite en avant de Macron et des autres responsables européens qui ne voient pas ce danger, et alors que leurs pays sont déjà très affaiblis économiquement et militairement?
Cette question nous ramène à la première partie de l'interview. La question que je me pose, est-ce que cet acharnement contre la Russie, contre ce que la Russie gagne en Ukraine, et de vouloir justement faire une contre-attaque qui est fantasmagorique, hein, ne cache pas justement, n'est pas un écran de fumée pour montrer l'échec de ces dirigeants dans leur propre pays? Est-ce que ça expliquerait cette fuite en avant? C'est la question que je me pose. Parce qu'en fin de compte, le pouvoir en France, vous voyez, il y a des images que j'aimerais transmettre à nos auditeurs. C'est que quand on voit Macron dans les réceptions officielles, on voit la garde républicaine dans ses uniformes, avec ses chevaux, etc. On se dit, mais ça, c'est la grandeur, c'est la puissance de la France. Mais ils n'ont pas idée comment ça se passe dans les zones de non-droit où les gens, ils ont peur quand ils sortent. Je veux dire, il y a un antagonisme profond entre l'élite politique et la réalité du pays. Moi, je préférerais...
Mais d'ailleurs, ça, c'est visible avec les agriculteurs.
Mais évidemment...
Ils sont sortis tout de suite.
Évidemment...
Comment il annonce vouloir donner encore 3 millions
Non,
3 alors, milliards de
3,
dollars,
3 milliards de dollars à l'Ukraine et il a donné 150 ou voire 200 millions aux agriculteurs, ce qui représente 150 euros par agriculteur.
J'ai interviewé le président de la coordination des agriculteurs,
Monsieur
Hérault, du département de l'Hérault.
Ouais, du département de l'Hérault, d'accord. Oui.
Voilà,
du département de l'Hérault. La coordination rurale, peut-être.
Voilà, coordination rurale,
très bien,
c'est ça.
Oui.
Exactement, je ne me rappelle pas du nom. Chaperon, Monsieur
oui,
Chaperon.
Oui.
Monsieur Chaperon. Et qui m'expliquait que à la fin du mois, un agriculteur qui travaille 70 heures par semaine, 70 heures par semaine. Alors, c'est-à-dire, c'est des gens qui ne dorment pas beaucoup parce que leur journée commence à 5 heures du matin.
Bien
parce
sûr.
Qu'il faut traire les vaches, il faut leur donner à manger, c'est des êtres vivants.
Bien sûr.
Avec eux. Ils terminent le mois moins que le RSA.
C'est tout à fait logique parce que tout ce qui est imposé par les standards européens, par la PAC, alors on vous dit oui, on paye, mais on reçoit. Mais d'abord...
Là, on transforme l'agriculteur.
Les petits agriculteurs sont en souffrance. Ils sont en souffrance économique. Ils n'ont jamais de vacances. C'est ce qui explique pourquoi il y a autant de suicides dans cette profession.
Absolument. Alors que la France comptait, je crois, au moins 4 millions d'agriculteurs.
Bien sûr. Mais bien sûr.
50 ans avant.
Bien sûr, ils ont des retraites de misère.
Alona que 400 000 aujourd'hui.
Ils n'ont pas de vacances. On leur impose un règlement administratif qui est intenable. On leur impose des jachères, on leur impose... c'est une vie insupportable. Et vous avez quand même des gens courageux qui ont la passion du métier et qui veulent continuer. Et beaucoup de parents déconseillent à leurs jeunes de continuer le métier. Vous avez des gens courageux en France. Mais je dirais, au-delà de l'agriculture, parce que c'est là où on voit la contestation, mais il n'y a pas que chez les agriculteurs, dans les professions libérales, chez les médecins, chez les avocats. Vous avez beaucoup de gens qui ont du mal à gagner leur vie du fait des charges ordinales, du fait de la TVA. Vous vous rendez compte qu'un avocat, il paye 20% de TVA? Mais c'est énorme sur une facture. Parce que sur sa facture, il a à peu près 50% qui part en taxes, en charges, etc. Et en plus, on va vous rajouter 20% de TVA.
De TVA, oui.
Mais plus personne va avoir un avocat digne de ce nom. C'est beaucoup d'argent. Et c'est pas parce que les factures sont élevées que l'avocat s'en met plein les poches.
C'est un peu comme le corps des médecins aussi.
Et le corps des médecins qui, eux, doivent traiter les généralistes à coût de 60 euros. Et ils travaillent pour rien. Et vous avez une désertification du monde médical dans plein de zones en France parce que c'est intenable. Ce sont des professions qui demandent beaucoup d'enseignement, beaucoup de temps pour être médecin. Il faut 10 ans d'études. Pour être spécialiste, il en faut 12. Pour un avocat, il faut à peu près 8 ans. Vous voyez, toutes ces professions qui demandent un investissement d'études important ne sont pas gratifiées à la fin sur le travail. Et ça, ce sont des symptômes d'une société qui est en train de rétrograder, de reculer. Quand vous appauvrissez la classe moyenne, quand vous appauvrissez la classe moyenne comme c'est fait en France, il n'y a aucun espoir qu'il y ait une croissance un jour. Il n'y a aucun espoir pour des jeunes de pouvoir se loger dignement, d'acheter... Le prix de l'immobilier est tel que c'est très difficile pour des jeunes de se loger en France ou de se loger sur Paris. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la France, qui était un pays de liberté, est un enfer social, est un enfer fiscal, est un enfer sociétal. Mais peu de gens ont l'opportunité de le dire et d'amener ce message au micro. Parce qu'il faut du courage de le dire. Et ça, c'est la réalité. Parce que si vous allez vous promener en France, vous allez faire un micro-trottoir, vous allez voir que les gens ne sont pas particulièrement heureux.
Absolument. Bien. Alors, j'espère que votre message sera entendu. et parce que c'est un pays, quand même un grand pays et qui a une certaine tradition humaniste. Je crois que s'il est repris en main, c'est pas très difficile. Et compris sur le plan géopolitique extérieur, la France peut retrouver une place à condition qu'elle change de paradigme, aussi bien en termes de politique intérieure qu'extérieure.
Alors, c'est vrai que la France, elle a un atout, c'est que c'est un pays aimé et respecté pour son passé, pour ce qu'elle a fait dans le passé. Elle n'est pas appréciée par ses gouvernants actuels, parce qu'on voit très bien que la politique du président Macron en Afrique est la risée des Africains. Il ne s'en rend pas compte, mais c'est la réalité. C'est du retour que j'ai de tous mes amis africains qui me disent « mais c'est pas possible ». Et là, je vous parle de l'Afrique, je vous parle pas du Moyen-Orient, où c'est la même chose, ou même de l'Asie. Je pense qu'on marche sur la tête, et pour vous donner une preuve tangible de ce que je dis, c'est le marché de européen de l'énergie qui est complètement aberrant. Il faut savoir que le coût de production de l'électricité n'a quasiment pas changé, qui est produit par nos centrales nucléaires. Eh bien, le coût de l'électricité, du fait justement de l'ouverture d'un marché artificiel à la bourse, où vous avez une trentaine, quarantaine de distributeurs qui achètent des lots d'électricité pour les refacturer à leurs clients, a augmenté de 400%. C'est intenable pour les PME et les TPE. Vous avez plein de TPE qui ont fait faillite, justement, du fait de cette aberration. Tout ça pour arranger l'Allemagne.
C'est que le problème, c'est que le prix était indexé sur la dernière centrale à gaz ouverte.
Alors, c'est un calcul très difficile, très difficile.
Mais
alors,
c'est que le problème.
Voilà, c'est la loi AREN et la loi NOM. C'est-à-dire qu'on va calculer le coût de l'électricité sur une des matières, peut-être le gaz, le pétrole, le charbon, ce que vous voulez.
Mais c'est que le problème
et
actuellement...
Et c'est celui qui a augmenté le plus... qui va marquer le prix de l'énergie.
Le prix, il est toujours en France indexé au gaz, alors que l'Allemagne, elle est passée à 70% au charbon.
Mais oui, non, mais c'est aberrant. Et quand vous leur dites qu'il faudrait sortir de ce marché, même à titre temporaire, on vous dit non, c'est pas possible. C'est le même ministre de l'économie qui a dit qu'il allait mettre un genou à terre à l'économie, à l'économie russe, alors que la croissance de la Russie va être supérieure à la croissance de l'Union européenne. Ouais. Non, mais nous sommes dirigés par des gens, malheureusement, qui vivent dans un autre monde, qui sont plus dans le sens des réalités, qui
alors,
n'ont plus
alors,
le contact avec...
Alors, Philippe Deveul, un dernier mot en tant que patriote français, un dernier mot pour nos amis africains. Est-ce que la France, qui a pratiquement tout perdu à cause de sa politique france-africaine en Afrique, est-ce qu'on pourrait retrouver un jour des relations normales de coopération d'égal à égal, gagnant-gagnant?
Je pense. Je crois qu'il faut faire table rase du passé colonial et de la politique ancienne qu'on avait avec l'Afrique et qu'on doit considérer les Africains, les pays africains, comme des partenaires à part entière. Mmh. Et que l'on doit coopérer avec cette nouvelle génération qui a envie de développer l'Afrique et qui ont cette culture française, qui ont cette francophonie. Et ne plus être une sorte de tuteur de l'Afrique, mais au contraire, des associés, des partenaires. Et je pense que ça reviendra à la normale un jour ou l'autre, quand nous aurons des dirigeants qui comprendront cette transformation dans ces relations diplomatiques avec l'Afrique. Parce que on l'a bien vu avec l'affaire du Mali. Mmh. On est intervenu à la demande du gouvernement malien, mais par la suite, on a laissé s'échapper les choses. Il y a eu un coup d'État qui a été fait par les militaires, mais qui n'était pas accepté par la France, mais qui était soutenu par la population française. Il faut savoir qu'il faut suivre la volonté des peuples et pas imposer, parce que justement, on a une présence militaire en Afrique. Quelle a été la conséquence de ça? On a dû quitter le Mali et ensuite on a reculé, on s'est accroché au Niger et il a fallu quitter le Niger. Mmh. Donc il faut revoir complètement de la cave au grenier notre système politique et diplomatique et géostratégique avec l'Afrique et pas que l'Afrique, notamment avec la Russie, notamment aussi avec la Chine, parce que comme vous l'aviez évoqué précédemment, c'est que vu nos alliances avec l'OTAN, si demain la Chine compte récupérer Taïwan, de facto l'Europe, la France peut se retrouver en guerre contre la Chine. Absolument. Encore une fois, la Chine n'a pas touché nos intérêts vitaux.
Au contraire, il y a des relations commerciales
donc,
énormes.
Exactement. Donc il y a un énorme chantier, un énorme parcours. Déjà, redonner confiance aux Français, donner un souffle aux Français. Il y a un économiste qui est un ami, Philippe Perlin, qui l'a dit très bien. Il a dit, il suffirait qu'on lève les sanctions avec la Russie sur le gaz et sur le pétrole, que l'on abaisse le niveau des impôts pour qu'on redonne un souffle à l'économie française.
Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Maître Philippe Devel, ça a été un énorme plaisir. Je vous remercie pour cette interview
plaisir
et tous
partagé.
Ces éclairages et ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci beaucoup.
C'était Philippe Devel, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il est aussi enseignant universitaire en droit constitutionnel. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.